Alors j'aimerais qu'on continue l'évangile de Jean ce matin, donc on va prendre la suite et on est en Jean chapitre 2 et nous allons lire les versets 13 à 35. Jean 2, versets 13 à 25, pardon. 13 à 25. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci encore et encore pour ta parole, Seigneur, et s'il te plaît, que tu veuilles la bénir, Seigneur, nous dépendons de toi pour toutes choses et nous te demandons grâce, Seigneur, que tu nous aides à comprendre, à nous nourrir des Écritures, à apprendre de toi, à t'aimer, à te craindre et à marcher toujours plus fidèlement avec toi. Seigneur, bénis-nous chacun, moi y compris, Seigneur, que tu nous fasses du bien et nous stimule dans notre foi. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Alors c'est un des passages des Écritures qui peut être mal compris par certains, et même c'est un passage qui peut déranger, un passage dérangeant. On peut être mal à l'aise avec ces versets. Pourquoi ? Parce que Jésus manifeste ici de la colère. Il est en colère, hein, on le voit. Il montre même de la violence, hein, dans ses gestes, hein, dans ses paroles. C'est très violent. Il chasse à coups de fouet. Et là, certains disent, c'est pas possible. Il doit y avoir une erreur, là. Les scribes, enfin, ceux qui ont recopié, ils ont dû se tromper. C'est pas possible. Là, on vient beaucoup de parler de l'amour de Jésus-Christ, hein, dans ce début de culte. Et c'est sûr, on se dit, mais Jésus, il était pacifique. Jésus, il est tout amour. Et on se souvient, bien entendu, de toute sa compassion, sa sollicitude à l'égard des foules, tous ses miracles, tous ses actes de bonté. Jésus allait de ville en ville, de ville en village, faisant du bien partout où il passait, hein, où il allait. Alors oui, ça c'est vrai, tout est vrai. Mais on voit aussi à 2 reprises, Jésus va chasser les vendeurs du temple. D'abord ici, au tout commencement de son ministère, et puis si on lit les autres évangiles, on voit qu'à la fin de son ministère, de nouveau, il a encore chassé donc les vendeurs du temple. Et on peut dire que, avant de nous montrer toute sa bienveillance et toute sa bonté, puisqu'il est au début de son ministère ici, en chapitre 2, Jean 2, eh bien, il va montrer aussi sa volonté de faire une purification. Il fait une purification ici. Et c'est un passage qui est dérangeant pour certains, parce que ça nous montre une facette du Fils de Dieu dont on n'a pas l'habitude. Encore une fois, Jésus est doux et humble, il est plein de bonté, il est amour. Et oui, mille fois oui, c'est la vérité. Mais dire ou penser que Dieu n'est qu'amour, que Dieu n'est que miséricorde, que pardon, que générosité, que voilà, eh bien, le réduire qu'à cela, eh bien, c'est se tromper sur sa personne, c'est se fourvoyer. Dieu est tout ce que nous venons de dire, mais c'est aussi, on le lit dans les Écritures, un Dieu qui est saint, un Dieu qui est pur, un Dieu qui est sans péché et qui est juste. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Donc on lit au verset 13, « La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. » Quand vous réfléchissez, quelle importance avait la Pâque des Juifs pour les Juifs ? Il faut savoir que c'était vraiment un moment clé dans l'histoire du peuple juif. C'était le moment où on venait confesser ses péchés et on voulait s'approcher de Dieu, être au plus près. On venait, on sacrifiait un animal au temple. Dans un autre passage de l'Évangile, il est écrit « La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour faire quoi ? Pour se purifier. » Et donc, ils venaient pour la purification, ils venaient se purifier de leurs péchés, et c'est dans ce contexte-là que Jésus arrive et entre dans le temple. Et on pense, donc je lisais un petit peu ce que des historiens, des commentateurs disaient, on pense qu'à l'époque, au minimum, il y avait 1 million de personnes qui étaient rassemblées ici, à Jérusalem, et pour venir au temple. Alors imaginez ce que ça pouvait faire, 1 million de personnes à cette époque-là. Ça voulait dire que tous les habitants de Jérusalem devaient accueillir les familles lointaines de partout. Partout, eh bien, où il y avait du couchage, il y avait des gens qui occupaient les lits, les auberges étaient prises d'assaut. C'était vraiment, il y avait des foules qui étaient partout. Et particulièrement, bien sûr, au temple, qui était le lieu d'adoration, où tous convergeaient pour venir faire des sacrifices. Et probablement, quand vous arriviez au temple, vous imaginez une foule compacte, et il fallait se frayer un passage pour finalement arriver au temple proprement dit. Et dans ce temple, qu'est-ce qui se passe ? Il est bondé de monde, bondé. Non seulement... Eh bien, il y avait la foule. Mais en plus, la Bible nous dit qu'il y avait des animaux qui étaient vendus dans le temple. Imaginez un peu ce que prend comme place un bœuf, rien qu'un bœuf. Et là, il y avait plein de bœufs, plein de brebis, plein de cages avec des oiseaux pour les offrir. Tout ça. Et en plus, des tables avec des changeurs, etc. Mais c'était rempli. Je lisais aussi des commentaires qui relatent cette période de l'histoire où on voit qu'il y avait un trafic qui s'était implanté dans le temple parce que des voyageurs qui venaient de très loin pouvaient venir avec leurs animaux propres dans le but de pouvoir les offrir en sacrifice. Mais ils pouvaient arriver au temple et on leur disait « Ah non, votre animal là, ça va pas, on ne peut pas l'offrir, il faut passer par les vendeurs du temple, il faut acheter l'animal là ». Et finalement, vous imaginez, il y avait tout un trafic d'argent qui se faisait au sujet de ces sacrifices et sur le dos des croyants. Et Jésus arrive, donc dans tout ce contexte, il voit des cordes, parce qu'il y avait plein de cordes forcément pour attacher les bœufs et les brebis, il ramasse des cordes, et on lit versets 15 et 16, « Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Et vous imaginez là ce qui se passe. Quand Jésus commence à chasser tous du temple, un cercle commence à se faire autour de lui, on commence à se reculer, à se bousculer, et puis le cercle s'agrandit, et Jésus qui crie, et c'est la panique. À noter que Jésus entre dans son ministère, ça veut dire personne ne le connaît. On ne sait pas qui il est, mais il prend ses cordes et il les chasse, et il déploie une telle énergie, un tel jugement que tous s'écartent. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit une manifestation de la colère de Dieu. C'est une manifestation de la colère de Dieu. Et parfois, vous savez, on a une vision un peu idyllique du peuple de Dieu. Et quand je dis le peuple de Dieu, je ne parle pas simplement des Juifs, ici dans ce contexte. Je veux dire des croyants, du peuple de Dieu. On se dit... avec la pensée œcuménique, l'important, c'est de croire en Dieu. Hein? Tu crois en Dieu? L'important, c'est de croire en Jésus. Tu crois en Jésus? Ben, tout va bien. Tout va bien. Récemment, j'ai vu un film intéressant qui relate l'histoire d'un pasteur américain qui a été séduit par l'universalisme. Donc, il s'appelle... C'est très récent, hein, c'est il y a une dizaine d'années. Donc, il est encore en vivant, ce pasteur. Il s'appelle Carlton Pearson. Alors, qu'est-ce que c'est l'universalisme? C'est de croire que, justement, Dieu est tout amour et qu'il est seulement amour. Seulement amour. Et donc, eh ben, il ne peut pas y avoir d'enfer. Il n'y a pas d'enfer. Impossible. Et Dieu va sauver tous les hommes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur foi, hein. Bien sûr, sauf s'ils sont de grands criminels. Quoique, comme il n'y a pas d'enfer, même pour les grands criminels, eh ben, il y aura une solution et tout le monde sera sauvé finalement à la fin. Et c'est très facile de vouloir faire abstraction de l'enfer et imaginer un Dieu qui ne punit pas, un Dieu qui ne sait qu'aimer et qui est incapable de reprendre. Beaucoup sont séduits par un tel Dieu. Et naturellement, eh bien, on va s'appuyer sur les évangiles. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus doux et humble de cœur. On voit Jésus aimant. Jésus qui tend la main, qui pardonne, qui n'a de cesse hein, que d'aimer, d'être généreux. Mais alors, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec ce passage des Écritures ici? Et puis l'autre, à la fin de son ministère, qui est semblable. Parce que quand on adopte cette pensée, eh bien, ça reste dérangeant de voir la colère hein, du Fils de Dieu. Et le Seigneur, on peut dire, il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour le connaître, pour avoir une vision qui est juste, une vision qui est vraie, une vision qui est équilibrée de sa personne. On ne peut pas prendre une facette de Dieu et puis occulter complètement une autre facette de Dieu. Parce que ben, Dieu, est, voilà, il faut le prendre tel qu'il est, dans sa totalité. Vous noterez que souvent, quand on met que l'accent sur l'amour de Dieu, on va pas trop regarder l'Ancien Testament. Parce que forcément, si vous regardez l'Ancien Testament, là vous dites, mais en fait, c'est pas le même Dieu. C'est pas le même. Non, non, Dieu n'est pas comme ça. Regardez les évangiles. Et non, c'est le même Dieu hein, dans toutes les Écritures. Et Dieu manifeste à plusieurs reprises sa colère dans l'Ancien Testament et d'une manière qui est très sévère hein, vis-à-vis du péché. Ben, fou, c'est la mort, hein, c'est le rejet, c'est même horrible pour nous aujourd'hui, la lapidation. Mais on ne veut pas voir cela. Non, l'important, c'est lire les Évangiles et voir que Jésus est tout amour. Et c'est vrai, Jésus pardonne, Jésus aime, c'est entièrement vrai. Mais avant de nous montrer tout son amour, chose qu'il va le faire dans les évangiles, eh bien il commence par nous montrer eh bien, qu'il n'est pas un Dieu, je dirais, un Dieu guimauve, un Dieu, voilà, un Dieu faible, un Dieu qui ne juge pas, un Dieu qui ne fait rien, hein, et qui ne juge rien ni personne. Non, il fait un fouet avec les cordes. Et puis, il frappe. Et on peut dire qu'on voit une nouvelle fois ici, et dès le début de son ministère, c'est intéressant, on voit la divinité de notre Seigneur. Il a montré sa divinité à Cana en Galilée. Il a changé l'eau en vin. Et là, eh bien, on voit encore sa divinité, mais cette fois, en faisant le vide du temple. C'est incroyable quand on y pense. Hein. Vous réfléchissez, un inconnu arrive, prend des cordes, mais il y avait une garnison romaine juste à côté qui veillait à ce que tout se passe bien. Il y avait une sorte de police hein, du temple, hein, des personnes qui veillaient à ce que tout se passe bien. Il y avait les changeurs. Imaginez, vous avez plein d'argent là, plein de pièces, et hop, on renverse la table. La personne qui est derrière n'est pas contente. Hein. Imaginez les sacrificateurs présents. Tous les chefs des Juifs présents qui sont là. Et le cercle s'écarte et on ne met pas la main sur lui et on se recule. On se recule. Pourquoi ils n'interviennent pas? Pourquoi ils ne l'empêchent pas d'agir? Et pourquoi et comment? Comment c'est possible? Parce que ben, c'était la colère de Dieu qui était en train de se manifester là. Et ça a poussé littéralement la foule du temple. Hein. Une colère légitime contre le péché dans les cœurs, contre le vol, contre le mensonge qui se pratiquait ouvertement dans la maison de Dieu. Et parce que c'était Dieu qui était en train d'agir, là, au travers de Jésus, eh bien, il n'y a personne qui ose bouger, répliquer, ou intervenir, faire quoi que ce soit. Mais Jésus, on peut dire qu'il introduit aussi sa divinité ici, l'idée qu'il est Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il va nommer Dieu son Père. Il va dire, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Donc déjà, il est en train de dire que Dieu est son Père et donc qu'il est lui-même Dieu. Parce que, vous vous souvenez un petit peu plus loin dans les évangiles, les Juifs ne vont pas s'y tromper. Hein. Ils vont dire, je lis qu'il est écrit, il cherchait encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et donc, voilà, le simple fait qu'il disait « mon Père », la maison de mon Père, eh bien, il était en train de dire qu'il était Dieu. Bien sûr, c'était nouveau pour eux. Hein. Et, voilà, ils ne savaient pas qui il était. Et Jésus manifeste sa divinité dès le commencement de son ministère. Maintenant, quand vous regardez tout le passage que nous venons de lire, on voit trois choses. D'abord, on voit cette cohue hein, dans le temple avec les vendeurs et ce trafic coupable. On peut dire que c'est le péché qui est dans les cœurs. Ensuite, on voit eh bien, cette indifférence des juifs et des chefs des juifs, forcément. Hein. On pourrait appeler ça le laxisme. Et enfin, on voit des croyants qui n'en sont pas réellement. On pourrait appeler ça une foi superficielle. Et donc, Jésus entre dans la ville et dans le lieu qui sont censés rassembler un peuple fidèle, un peuple aimant, un peuple consacré au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il voit ? Le péché, le laxisme et une foi qui est superficielle. Et je pose la question, est-ce que le monde a changé aujourd'hui ? Est-ce que les hommes ont changé ? Est-ce que ça n'existe plus ? Eh bien non. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Le décor a changé. Mais le cœur de l'homme est identique. Hein. Et la Bible, on peut dire qu'elle est intemporelle. Elle traverse les âges, elle est toujours actuelle. Le cœur de l'homme n'a pas changé, rien n'a évolué. Et ce que la parole de Dieu nous montre dans ce passage, eh bien, c'est ce qui existe encore aujourd'hui. Là où de l'extérieur, eh bien, vous pouvez dire, « Ah, mais il y a de la piété, il y a de l'amour pour Dieu, il y a la vérité. » Eh bien, en réalité, Dieu dit que parfois, il peut y avoir, en fait, le péché, le laxisme, et puis une foi qui est superficielle. Alors, c'est beau l'idée, tous seront sauvés, tout le monde sera sauvé. C'est beau l'idée, tout le monde sera pardonné. Ou bien l'idée de croire, hein, qu'il suffit de croire dans un Dieu qui est bon, et tout ira bien. Mais là, dans ce passage, eh bien, il y a la colère. Dieu est en colère, Jésus est en colère contre un système religieux qui s'est mis en place avec le temps hein, et qui est venu corrompre ben, la piété, la droiture, l'honnêteté, la pureté. Et le temple qui était censé être une maison de prière, un lieu où on rencontre Dieu, c'était devenu une maison de trafic, une caverne de voleurs, même Jésus dit hein, dans un autre passage. Et si vous revenez à l'origine du temple, un lieu où Dieu réside, Dieu y était en esprit. Vous vous souvenez, le lieu saint, le lieu très saint. Et quand vous regardez toutes les lois, alors d'abord c'était celle du tabernacle, puis après bien qui s'est prolongée avec le temple, hein, mais toutes ces lois, dans les proportions, dans les textures, dans les formes, dans la disposition, dans les matériaux, dans les vêtements des sacrificateurs, tout disait sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Alors, eh bien, venir fêter la Pâque, c'était venir s'approcher du Dieu trois fois saint pour obtenir sa grâce, pour obtenir son pardon, pour s'humilier avec une vraie repentance de cœur. Mais est-ce que finalement, eh bien, c'était pas devenu pour eux un rituel religieux, hein, quelque chose que, eh bien, on fait comme une habitude, et qui cachait, eh bien, l'hypocrisie, qui cachait le vol, qui continuait à cacher les péchés au fond du cœur. Hein. Et on sait que là où Dieu ne règne pas, eh bien, le péché reprend sa place. De fait, le péché reprend sa place. Et il y a des religions dites chrétiennes où on peut dire le péché déborde même. Déborde, il y a des scandales, des informations, hein, des choses horribles, de pédophilie, hein, ou de choses où ça se monnaie. L'entrée au ciel se monnaie, puisqu'on peut payer une messe qui permet d'accéder plus vite au ciel et de passer moins longtemps au purgatoire. Donc ça se monnaie, ça s'achète. Il y a des religions chrétiennes où on vend des supports matériels de la foi. Supports matériels de la foi. C'est-à-dire, on vous vend des statues, on vous vend des choses. Hein. On vous dit, non, bien sûr, ce n'est pas les adorer, c'est les vénérer. Mais c'est des supports matériels de la foi. Et c'est un non-sens. Comment quelque chose de matériel peut devenir un support pour la foi ? La foi, c'est croire sans voir. Et donc, Dieu ne nous demande pas d'avoir des choses pour croire. Il nous dit, crois, crois. Je suis esprit, crois en moi. Et la question que je pose, c'est, imaginez, si Jésus arrive subitement là où se font toutes ces choses, est-ce qu'il ne prendrait pas un fouet en disant, mais stop, stop. Et c'est ainsi Dieu, comment un lieu qui est censé rassembler les croyants sous le Dieu trois fois saint, eh bien peut devenir un lieu qui est corrompu par le péché en fait. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Plus de temple, c'est fini. Et il n'y a pas non plus un lieu attitré où c'est là où on adore le Seigneur. Non, même pas un lieu. Puisque l'heure est venue maintenant, elle était à venir lorsque Jésus était ici, mais maintenant elle est venue où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et qu'est-ce que dit la Bible ? La Bible dit, c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Alors, eh bien, quand on est réunis ensemble, nous formons, nous, croyants, un temple pour le Seigneur. Maintenant, c'est important que dans ce temple que nous formons pour le Seigneur, eh bien, on ne laisse pas le péché, on ne laisse pas l'hypocrisie, on ne laisse pas le mensonge, on ne laisse pas la débauche, ou toute autre forme de péché s'introduire finalement dans ce corps, dans ce temple que nous formons pour le Seigneur. Là où le Dieu saint veut habiter, mais le péché ne doit pas habiter. C'est pas possible. Alors nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Et vous n'êtes pas parfaits. Mais nous pouvons être irréprochables. C'est ce que la Bible enseigne. Nous pouvons être irréprochables. Et nous devons être irréprochables. Nous le devons. C'est notre devoir à chacun. Et c'est à notre portée si simplement nous confessons nos péchés. Vraiment, avec humilité. Si nous sommes vrais devant Dieu, vrais avec le Seigneur. Et je dirais, vrais aussi avec nos frères et sœurs. Hein ? Il faut qu'on soit vrais. C'est pas possible. L'hypocrisie, le mensonge, le péché doit plus avoir sa place. Jean 2, verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent : quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ? Les Juifs, il est dit ici. Et on se pose la question, mais de quel juif il est en train de parler ? Il y a des juifs partout, en fait. Et cette mention fait certainement référence au chef des juifs, hein, à tous les sacrificateurs, les scribes, les responsables, ou à minima, on dira, ça inclut ces chefs qui sont là. Et souvent, c'est eux qui avaient l'autorité ou la facilité pour prendre la parole. Et ce que j'aimerais relever ici, eh bien, c'est le laxisme, c'est chez ces juifs dans le temple. Parce que la première chose que Jésus fait quand il entre, eh bien, c'est chasser les trafics, chasser les voleurs, chasser tout ce commerce qui est en train de se faire dans le temple et qui était notoire. Et on se pose la question, mais comment les sacrificateurs et les chefs n'avaient pas conscience de ce problème? Comment ils ne voyaient pas ça? Ou bien, eh bien, ils le voyaient, mais ils ne disaient rien. C'est aussi fort possible. Fort possible. Parce que malheureusement, c'est ce qui arrive parfois. On sait qu'il y a un gros problème, un péché notoire, et on ne fait rien. On ne fait rien. L'actualité nous montre des scandales commis par des religieux, et c'est étouffé, c'est caché, on veut surtout pas que ça se sache, hein, c'est couvert par la hiérarchie. C'est très grave. Et même les autorités, hein, et la loi qui condamne, on ne dit rien. Eh non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là où le péché, eh bien, est toléré, là où il est caché, où il est maquillé, eh bien, Dieu n'est pas. Dieu ne peut pas être présent. C'est pour ça que Paul, quand vous lisez les Écritures, vous voyez l'épître aux Corinthiens, premier épître aux Corinthiens, Paul n'a pas mâché ses mots, hein, avec l'Église. Il est sévère, sévère. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y avait un inceste au milieu de l'Église. C'est terrible. Et on ne disait rien. Bon, voilà, on laissait la chose. Voilà, on était devenu tolérant, tellement tolérant que eh bien, c'était du laxisme en fait. On laissait faire, hein. On laissait faire, on ne jugeait pas le péché. Alors, 1 Corinthiens, juste, 1 Corinthiens 5, 9 à 13, et on voit que finalement, ça rejoint notre Seigneur Jésus dans sa manière de juger les choses. 1 Corinthiens chapitre 5 et versets 9 à 13, nous lisons « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. » Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère et débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Et on voit, ce que l'on voit, c'est que dans le temple de Dieu, et en l'occurrence, ben, qu'est-ce que le temple de Dieu? Ben, c'est les frères et sœurs, c'est au milieu de l'Église, le péché comme cela ne peut pas être toléré. On ne peut pas passer au-dessus en se disant, ben, pff, c'est pas grave, il faut être tolérant. Non, c'est pas possible. Quand Jésus voit cela, eh bien, il fait un fouet, et puis il frappe. Il chasse l'iniquité. Alors les Juifs lui demandent un miracle. Et Jésus, qui lit dans les pensées des cœurs, sait très bien ce qui est en eux, hein, il lui demande un miracle. Très bien. Versets 19 à 21. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. Et Jésus leur donne un miracle. Oui, c'est le miracle de la résurrection. Mais c'était dit, hein, d'une manière où c'était obscur, c'était caché. Ils ne comprenaient pas, ils ne pouvaient pas comprendre. Hein. Et ce sont ces mêmes Juifs-là, qui, eh bien, un peu plus tard, vont détruire le temple de son corps, puisqu'ils vont crucifier notre Seigneur. Alors j'aimerais qu'on avance un petit peu plus loin, et on va lire les versets 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et donc, Jésus est resté à Jérusalem pour cette fête de Pâques, et c'est merveilleux. Plusieurs crurent en son nom. Est-ce que Jésus n'était pas venu pour ça? Il était venu pour qu'on croie en lui, c'est merveilleux, plusieurs croient en son nom. Et comment ça se traduisait? Et bien, certainement, ils commençaient à suivre Jésus, hein. Peut-être ils parlaient de lui, ils croyaient en lui. Et pourtant, Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et même si toute la Bible nous invite à croire en Jésus-Christ comme étant la chose fondamentale, première, la plus importante, placer sa confiance en Jésus-Christ, on peut dire qu'il y a foi et foi. Foi et foi. Il y a deux types de foi. Et ce n'est pas parce que quelqu'un dit « je crois en Jésus » que ben, tout va bien. C'est un enfant de Dieu. Non. Et ce texte, il introduit une notion importante sur la personne de Dieu, c'est l'omniscience. L'omniscience. Qu'est-ce que c'est l'omni ? Omni, c'est tout. Et science, ben, c'est la connaissance. C'est la connaissance de tout. Dieu sait tout. Il sait tout. Et dans les trois groupes que je vous ai cités dans notre passage, c'est-à-dire les vendeurs qu'il chasse, les religieux juifs qui le questionnent, ou ceux qui disent croire en lui, eh bien on voit son omniscience. À chaque fois, son omniscience. D'abord, Jésus, bien, c'est bien sûr la pensée de Dieu qui est offensée par tout ce trafic qui se fait dans le temple. Jésus sait son propre futur, la crucifixion. Il l'annonce. Jésus sait également ce que feront ces Juifs qui, eux, ne le savent pas encore, qui n'ont même pas encore la pensée que ce soit possible qu'ils le fassent. Lui, il sait déjà ce qu'ils vont faire. Il le sait. Il sait également ce qui est dans l'homme. Il connaît la pensée de l'homme. En fait, Jésus connaît toutes les pensées de tous les hommes. C'est Dieu sait tout. Il sait tout. Il a une connaissance qui est globale, qui est complète, qui est totale. Il sait bien sûr ce que les scientifiques découvrent. Ils font une découverte. Mais lui, il le sait déjà sans avoir besoin de le chercher. Il est le créateur. Il avait fait toutes choses. Donc, il sait tout. En fait, il sait tout ce qu'il est possible de savoir. L'invisible, le visible, le passé, le présent, le futur. Et on voit ici la divinité de notre Seigneur. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut tout savoir, passé, présent, futur. Il n'y a que Dieu qui connaît toutes les pensées, toutes les paroles avant même que nous les prononcions, avant même que nous y pensions. Il sait ce qu'on va dire. Il connaît toutes les actions, tous les gestes, avant même que cela n'arrive. Il n'y a que Dieu qui sait tout et en même temps. En même temps, il n'y a que Dieu qui sait les intentions du cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît les motivations profondes. Il n'y a que lui. Sa connaissance est complète, parfaite, totale, éternelle. Elle était avant, elle continue. En fait, Dieu sait même ce qui aurait pu arriver dans telles circonstances ou qui pourrait arriver dans toutes les possibilités imaginables impliquant toutes les décisions possibles. Pour le résumer, ça veut dire quoi ? Dieu connaît tous les scénarios. Tous les scénarios possibles. Il les connaît tous. Absolument tout. Il connaît les interconnexions. Il connaît l'effet domino. Ceci va entraîner cela et cela. Et il sait la fin. Il sait tout. Il sait tout. Et dans sa souveraineté, eh bien, il choisit lui-même le scénario selon son plan pour l'accomplissement de ses desseins, de ses buts et de sa gloire. Voilà, il choisit. C'est comme ça que ça va se passer. Alors bien sûr, quand vous pensez à l'omniscience de Dieu, eh bien vous vous dites, il sait. Quand un croyant n'est pas vraiment un croyant, quand il n'est pas vraiment au Seigneur, il le sait, il sait ce qui est dans le cœur de la personne. Il sait quand la foi, elle est superficielle. Il sait quand, eh bien, ce n'est pas une foi qui est passée par une vraie repentance et par un don complet du cœur. Pourquoi Jésus ne se fiait pas à eux? Parce qu'il voyait la réalité de leur foi. Et c'est vrai qu'il croyait. En tout cas, il disait croire. Mais on peut dire que ce n'était pas de la foi qui sauve. Parce que je vous ai dit, il y a foi et foi. Certains croient en Jésus, mais ils ne croient pas de manière à être sauvés. La foi, elle implique. La foi, c'est la foi qui capitule. C'est la foi qui se donne entièrement, qui se donne complètement. Parce qu'il y a une foi qui ne sauve pas. Jésus dit lui-même ailleurs dans les évangiles, vous connaissez ce passage, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» En ton nom ! « N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? » ?»« N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. » Pourtant, c'est des croyants. Ils font dans le nom de Jésus-Christ. Donc, ils ne peuvent pas dire, « Non, mais je ne crois pas en Jésus-Christ. » Ils croient. Mais il y a une foi qui n'en est pas une foi qui est superficielle, une foi qui ne sauve pas. On croit, mais on n'est pas vraiment prêt à abandonner le péché. Parce que c'est ça la foi qui vient. Quand on vient à Jésus, on a pris conscience que, eh bien, on est pécheur et on veut vraiment ne plus pécher. Sinon, il n'y a pas de conversion. Hein. C'est « je ne veux plus, je demande la délivrance ». C'est ça la vraie foi. La vraie foi, c'est celle qui dit « je ne veux plus être indépendant ». C'est-à-dire chercher, enfin, mettre en avant ma volonté, faire mes petits choix, c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Non, je ne veux plus ça, je m'abandonne, je me donne à Jésus-Christ et je veux vraiment qu'il accomplisse sa volonté dans ma vie. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. On a vu dernièrement dans une étude, c'est la foi d'un petit enfant. Et un petit enfant, bah, il donne tout, quoi. Il s'abandonne entièrement. Il a confiance. Il prend la main de son père et il se laisse guider. Voilà. Il suit. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Est-ce que vous êtes prêts à donner la main au Père Céleste et vous laisser guider en disant, bah, je te suis. Je te suis. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et quand vous reprenez notre passage, Jean 3, versets 1 et 2, « mais, et je souligne, mais, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et remarquez ce « mais » qui c'est une coupure. Voilà, il y a tout ce qu'il y a avant, ces trafiquants dans le temple, ces religieux juifs, ces faux croyants, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Et Jésus souligne ici que certains sont différents. Certains cherchent, ils veulent la vérité, ils cherchent la vérité. Et ils sont prêts vraiment à tout recevoir de Jésus, prêts à se mettre à ses pieds, prêts à l'écouter, prêts à croire d'une foi qui va les impliquer. Une foi où ils sont prêts à perdre leur vie, prêts à changer s'il le faut. Eh bien, ceux-là deviennent des disciples. Voilà. Ceux-là sont des vrais disciples. Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus ? On pourrait donner plein de... Comment dire ? Ajouter plein de choses dans la définition d'un disciple de Jésus. Mais j'aimerais mettre l'accent sur une chose, c'est quelqu'un qui va boire la parole de Dieu, qui va croire en elle, qui va la garder dans son cœur. Et c'est intéressant de voir que dans tout notre passage, il y a deux mentions des disciples du Seigneur. Et regardez ce qu'il est dit. On lit verset 17. « Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Et donc, les disciples, ils se souviennent. « Ah oui, mais le psaume 69 !» Ils se souviennent de la parole de Dieu. C'est intéressant, hein ? Ils ont la parole de Dieu qui revient dans leur cœur, dans leur pensée. Verset 22, C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Les disciples se souviennent de ce qui est écrit. Ils croient dans l'Écriture. Ils gardent, ils serrent la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ dans leur cœur. Et c'est toute la différence avec ceux qui croient parce qu'ils ont vu un miracle. Ils ont vu un miracle, alors ça y est, je crois. C'est, pour certains, ils n'ont même pas vu eux-mêmes. Mais ils croient à quelqu'un qui a vu une apparition ou quelque chose et ça leur suffit. Ça leur suffit. Non. Un croyant, il croit parce qu'il a été convaincu par la parole de Dieu, par les Écritures. C'est ça qui fait que c'est un croyant. Ce ne sont pas les miracles qui suscitent la foi. D'ailleurs, il le dit dans d'autres textes, avec Lazare et l'homme riche, par exemple. Mais c'est la parole de Dieu. C'est ça qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et je me souviens de quelqu'un qui est venu autrefois ici et qui, on lui a trouvé une tumeur cancérigène sur la main. Et puis il a été guéri. Il a dit, oh mais Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Et puis on ne l'a plus revu. Et aujourd'hui, il est loin du Seigneur. Divorcé et loin. Alors que Nicodème, le chef des Juifs, eh bien lui, il a dit, mais je veux savoir. Qu'est-ce qu'il est Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? Il l'a écouté, il a reçu, il a bu ses paroles, il les a gardées dans son cœur, ça a mûri, ça a transformé sa vie. Et puis il s'est déclaré pour Jésus-Christ. Il est devenu un disciple de Jésus-Christ. On aimerait croire à l'universalisme. Ce serait beau que tous soient sauvés. Mais étroite est la porte qui mène à la vie. Et il y en a peu qui trouvent cette porte. Et large est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là, dit Jésus-Christ. Et ça, c'est la parole de la vérité, la parole de Dieu. Alors Dieu cherche les Nicodèmes. Est-ce que nous en sommes un? Est-ce que nous avons soif, Ou si nous en sommes un, eh bien, qu'on puisse chercher, nous aussi, les Nicodèmes, les chercher avec le Seigneur. Je vais laisser François.